Et cette parole dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, le chapitre 3, le verset, le chapitre 4 aussi, on voit l'Église qui est en mouvement par l'Esprit de Dieu. On voit les apôtres qui sont dans l'action de l'annonce de la parole de Dieu. On voit la communauté chrétienne qui vit l'amour de Dieu. Et le texte dit que Dieu ajoutait jour après jour ceux qui étaient sauvés à l'Église de Dieu. Et l'Église de Créteil aussi fait cette expérience année après année. Dieu ajoute à la communauté chaque année des femmes et des hommes qui sont sauvés par Jésus-Christ et qui par la suite passent par les eaux du baptême. Le dimanche prochain, nous aurons un culte de baptême ici, dans notre église. Deux d'entre nos sœurs vont se baptiser. Elles vont passer par les eaux du baptême après plusieurs mois avec moi dans l'étude de la parole de Dieu. Le conseil, avec ce que nous voyons dans la vie de ces bien-aimées sœurs, nous montre qu'elles ont fait le pas avec le Seigneur et que nous pouvons être encouragés publiquement avec elles à témoigner de leur foi. Donc je vous présente aujourd'hui ces deux personnes. Elles auront l'occasion au culte de dimanche prochain de rendre leur témoignage avant de passer par les eaux du baptême. Aujourd'hui, nous voulons juste vous les présenter. Il s'agit d'une personne que vous connaissez, qui a grandi pour la plupart, qui sont anciens de cette église. Elle a grandi ici, elle a fait beaucoup de choses ici, et maintenant, elle fait ce grand pas avec le Seigneur. Donc, c'est notre sœur Déborah Matidika. Je te demandais de te tenir debout pour ceux qui ne la connaissent pas, mais forcément, on la connaît à peu près tous. Voilà. Donc, c'est Déborah, l'une des personnes qui passera par les eaux du baptême dimanche prochain. Et l'autre, j'ai déjà dit, vous la connaissez depuis peu, mais c'est ce que je disais aussi. Dieu ajoute dans son église ceux et celles qui étaient sauvés. Donc, la deuxième personne, c'est Jenny Mwenzi, si je prononce bien ton nom. Voilà. Voilà. Donc, c'est notre bien-aimée sœur qui est avec nous depuis l'année dernière et qui suit aussi régulièrement les cultes avec nous. Et quand le temps professionnel lui permet, elle est aussi là les mardis, quelques fois avec nous. Et elle a été, comme Déborah, régulièrement dans cette étude biblique en vue du baptême. Et nous nous réjouissons de ce que Dieu sauve encore aujourd'hui. Et il sauve encore des jeunes, n'est-ce pas? Il sauve encore des jeunes aussi. Elles nous dureront un peu plus dimanche prochain. C'était juste l'occasion de les présenter à l'église pour que nous puissions tout au long de cette semaine les porter devant Dieu et que cette cérémonie soit à la gloire de Dieu. Donc ça sera pendant le culte. Hein. Nous ferons un culte de baptême. Un culte spécial suivi. Éric donnera quelques précisions tout à l'heure dans les annonces. Pour la parole d'aujourd'hui, je veux continuer quelque chose que j'ai commencé avec l'Église il y a maintenant à peu près un mois, au début du mois de septembre. Nous avons commencé à étudier l'Évangile de Matthieu, en tout cas les premiers chapitres. Hein, Matthieu chapitre 5, 6, 7 et 8. On a pris des morceaux choisis, ça et là, dans cet Évangile. Et lors de ces deux prédications, c'est vrai qu'il y a des points sur lesquels je n'avais pas forcément mis l'accent parce que l'accent était porté sur d'autres points. Et j'aimerais aujourd'hui peut-être conclure cette série, je ne sais pas encore, mais en tout cas, nous porter dans la réflexion. Le thème principal qui nous a conduit, c'était l'attitude du vrai chrétien. Hein, l'attitude du vrai chrétien. Le vrai chrétien. Comment, quand on est chrétien, marcher avec Dieu, hein, être des citoyens du royaume de Dieu, et des citoyens du royaume des cieux. Et nous avions étudié ces chapitres, et là je vous propose de faire ce parcours avec ces quelques versets que nous allons reprendre encore aujourd'hui et aller plus en profondeur dans notre compréhension. La vie chrétienne, vous êtes le sel de la terre, ça vous dit quelque chose? Vous êtes la lumière du monde. Donc, Cette parole de Jésus vient après les béatitudes. Jésus a présenté les béatitudes que nous avons vues lors d'une prédication, hein, chapitre 5, verset 1 à 13. Et à la fin de ces béatitudes, il dit ces paroles fortes. Vous êtes le sel de la terre. Je ne reviens pas dessus parce qu'on en a parlé. Si vous voulez vous souvenir, vous allez sur le site de l'église. Éric nous fait la grâce d'enregistrer les messages sont dessus. Et à la fin de ces béatitudes, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Et à la fin de cette série de tout le chapitre 5, comme pour conclure le chapitre 5, la parole dit au verset 48, Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et là, on se dit, ça ne va pas être possible, Seigneur. N'est-ce pas? Parce qu'on aime dire, nul n'est parfait. Et c'est vrai, hein? Je ne sais pas. Vous êtes parfait, vous? Ah, mais comment on va faire alors par rapport à ce verset? C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que c'est une parole en l'air que le Seigneur dit? Est-ce que c'est une formule, comme on aime sortir quelquefois des formules, nous sommes les meilleurs du monde? Donc si on n'est pas parfait et qu'on n'a pas l'impression qu'on va être parfait là dans les heures qui suivent, à quoi sert ce verset finalement? C'est une invitation? Non, ce n'est pas une invitation, c'est un impératif. Soyez parfait. Soyez donc parfait. Mais le donc ici est une conséquence de quelque chose qu'il a dit, n'est-ce pas? Et à la suite, il va donner des applications de ces choses dans les chapitres qui suivent. Parce que je voulais indiquer, tout ce chapitre 5, 6, 7 et début du chapitre 8, c'est toute une logique de l'enseignement de Jésus. Donc les éléments sont imbriqués les uns dans les autres, n'est-ce pas? Et nous voyons que ce verset 48 achève le petit paragraphe qui commence au verset 43 avec « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc en fait, dans cette perfection dont parle Dieu, c'est toujours que le chrétien est encouragé à continuer de grandir, de manifester l'amour de Dieu. Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, le verset 48, c'est un programme de vie. Ce n'est pas une situation là et maintenant, c'est un programme de vie. Ton programme de vie chrétienne, c'est « Sois parfait. Sois parfait comme ton Père est parfait. Grandis, développe-toi vers cet objectif-là. C'est vers là que tu dois aller. C'est vers là que je dois aller. » Je dois aller vers la perfection. Dirais-je, j'en ai les moyens. En tout cas, si je suis converti, j'en ai les moyens. Et le moyen par excellence, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus dit, la diapo d'après, il y a tout ce texte que nous allons lire, qui vient juste après le verset 48 du chapitre 5, donc moi sur verset 1 du chapitre 6. Je vais le lire dans la version Summer. Ça va donner un autre angle de lecture, ça sera le même contenu, mais avec un autre angle de lecture. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 1, la version Summer. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans la synagogue et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui est dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui que vous le lui demandiez. Amen. Jusque-là, la parole de Dieu. Là, il nous parle de l'aumône. L'aumône, on peut le traduire dans des termes plus simples, c'est donner quelque chose aux pauvres. Hein? Donner quelque chose aux pauvres. Est-ce que Jésus dit de ne pas donner aux pauvres? Je ne pense pas. Jésus met l'accent ici sur la générosité. Le chrétien est appelé à être généreux. Le chrétien est appelé à être généreux, même si notre société, on ne sait plus qui sont les vrais ou les faux mendiants. On est un peu perturbé par toute cette économie de mendicité aussi, qui n'est pas toujours visible, enfin, qui n'est pas toujours authentique. Mais comme le disait hier un jeune dans la voiture, est-ce que ça doit nous arrêter à être généreux? Non. Est-ce parce qu'il y a du faux qu'on ne doit pas être généreux? Non. Nous ne devons pas être insensibles à la pauvreté. Par contre, ce que Jésus dit, c'est quand tu fais l'aumône, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, est-ce que ton intention est calculée de sorte que tu le fais visiblement pour que tout le monde dise « Oh, mais elle est gentille celle-là, c'est pas vrai. Ah, mais elle est toujours en train de donner des choses, ah, ben c'est gentil. » Ou bien tu fais comme quelques-uns, quand ils ont donné quelque chose à chaque fois, et il semble que dans notre famille, on avait un homme comme ça, quand il donnait une tenue à quelqu'un, et qu'il y avait des cérémonies, et que la personne mettait cette cérémonie, il rappelait à chaque fois. Ah, t'as mis la tenue que je t'ai donnée. Bah, si tu lui as donné, c'est devenu sa tenue. Et que parfois, malheureusement, si on fait l'aumône comme ça, pour toujours faire remarquer aux gens que c'est nous qui avons aidé, Jésus dit que de telle façon de faire, en fait, on a nos récompenses. Il dit, ta récompense, c'est le merci que la personne va te donner, et pas plus que cela. Alors que Dieu aurait voulu te bénir au-delà de juste le merci ou la reconnaissance des hommes. Parce qu'au fond, il dit, quand tu fais l'aumône, quand tu apportes une aide, tu n'apportes pas pour te faire voir. Tu apportes parce que le frère, la sœur, parce que la personne est devant besoin et que sur le moment, pour toi, c'est de faire le peu que tu peux pour au moins apporter ta contribution à la situation de la personne et tu passes ton chemin. Qu'il y ait un merci ou pas ce que tu recherches. En fait. Jésus dit, faisons attention. Parce que malheureusement, dans la société juive de l'époque, c'était devenu aussi une façon de faire, une façon d'être bien vu, une façon de se faire remarquer. Est-ce que c'est là notre attitude? Je ne pense pas. Il dit par contre, si on le fait de la bonne façon, Dieu, qui est la source de bénédiction, nous bénira. N'est-ce pas? On a des textes qui le disent clairement. Quand Jésus parle de la façon de prendre soin de ceux qui sont des enfants de Dieu, des plus petits, il dit en Matthieu chapitre 10, verset 42, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier quoi? Même le petit verre d'eau que tu auras donné à quelqu'un qui aura soif. Même le petit verre d'eau, il te le rendra. » Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au saints. Dieu n'est pas injuste. Il te le rendra, il te bénira. » Parce que ton objectif, ce n'était pas d'être béni. Ton objectif, c'était d'aider une personne. Mais comme Dieu est celui qui est le juste et qui récompense justement les bonnes actions, il te le rendra. Tôt ou tard. Jésus, dans cette parole, il touche des choses qui touchent à la pratique de la foi chrétienne. Hein? Donc, faire du bien, être généreux, aider ceux qui sont dans le besoin, fait partie de notre vie chrétienne. Un chrétien est généreux, il est sensible, il est miséricordieux. On l'a vu dans les béatitudes. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Hein? Être miséricordieux, c'est celui dont le cœur est toujours sensible aux situations des personnes qui sont dans la détresse et qui ne s'arrêtent pas à dire « Oh !» mais qui agit aussi à son niveau avec les moyens et la force qu'il a. Même si c'est vrai que quelquefois, on est démuni parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Mais j'aime la société française en tout cas pour cet aspect de la société française. J'aime la société française parce que c'est une société qui est toujours sensible aux causes. Quand il y a une maladie orpheline et quand on cherche des moyens, quand on lance l'appel, les gens n'hésitent pas à donner, même ne serait-ce que 5 euros. Et nous, chrétiens, nous devons être aussi sensibles sur ces choses-là. À commencer dans l'Église, mais bien au-delà. Donc, l'aumône, le don, la miséricorde fait partie de notre foi chrétienne. Ensuite, Jésus prend un autre aspect de la foi chrétienne. Il prend la prière. Là, qu'est-ce que Jésus essaie de faire? Il essaie de corriger une façon de faire qui était en vogue dans la culture juive de l'époque. Il va toujours contrebalancer entre ce qu'il voit faire et ce qu'il attend du disciple. Et il dit pour la prière, aussi là, peut-être qu'il y a des choses à corriger. Il dit, lorsque vous priez, donc il s'adresse à ses disciples, lorsque vous priez, Jésus pose des conditions importantes pour la prière, n'est-ce pas? Il dit, quelle est la motivation spirituelle qui est derrière ta prière? Quelle est la motivation? C'est ce qui touche en premier, n'est-ce pas? Qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. On dit, mais franchement, quelqu'un qui prie pour être vu, s'il y a une contradiction, n'est-ce pas? Nous-mêmes, on dit, mais un chrétien ne peut pas faire ça. C'est vrai, osez-vous. Mais quelquefois, ça se passe, malheureusement. Quelquefois, ça se passe, n'est-ce pas? Et Jésus, parce que dans la pratique religieuse d'alors, on priait debout quelquefois dans la synagogue. Il y avait un maître de prière et celui qui était invité à prier se mettait debout. Donc, ce n'est pas ça que Jésus parle, mais c'est la façon de le faire. Il y avait des heures aussi, hein, chez les Juifs, il y a des heures de prière, comme un peu chez les musulmans. Donc, si vous connaissez la foi musulmane avec sa pratique, vous pouvez à peu près voir de quoi Jésus parle dans la foi juive aussi. Parce que c'était à peu près pareil. Il y a des heures de prière. Donc Jésus dit finalement, est-ce que cette pratique-là, c'est celle que Dieu voulait au départ? Est-ce que prier au vu au-dessus de tous, est-ce que c'est ça la prière? Il dit, si toi tu veux prier, rentre dans ta chambre. Il dit même, ne laisse pas la porte entrouverte. Il dit, ferme-la. Parce qu'il s'agit d'une communion entre toi et ton Père. Il s'agit d'une relation d'intimité entre toi et Dieu. Cela n'exclut pas la prière communautaire. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prier quand nous sommes à l'église les uns les autres. Non, ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de la motivation profonde. Il parle du caractère de la prière. C'est quoi la prière? C'est la dépendance à Dieu. C'est la relation à Dieu. Ce n'est pas juste des formules que je prononce. Ce n'est pas l'enregistrement de mes belles phrases, même si ça compte aussi. Parce qu'on a des prières vraiment bien dites dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui ont prié Dieu avec une élégance incroyable. Quand David prie dans les psaumes, tu dis, waouh! Où il sort toute inspiration pour dire, l'Éternel est mon rocher, des images fortes. Par contre, il dit, quand nous prions, prions de façon intelligible. Prions de façon sereine. Vous savez, quelquefois, si on fait comme les autres et on ne prend pas son temps pour s'éduquer à la prière, on est susceptible de faire des grosses bourdes aussi. N'est-ce pas? Il y a ce frère qui, dans ce mouvement de prière, était en train de prier. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, il ne réalisait même pas ce qu'il disait. Parce qu'il était emporté par un flot de paroles de prière. L'Éternel est mon berger, Seigneur, c'est toi qui nous guide. Je t'ai protégé, Seigneur. Vous n'avez même pas vu là. Vous avez vu ce que j'ai fait là? Je t'ai protégé, Seigneur. Mais dans un flot de prière, on n'en même pas là. Parce que quand c'est rapide, comment on peut faire pour savoir qu'il a dit ça? Toi, tu peux protéger le Seigneur. Je t'ai protégé, Seigneur. Mais en fait, il voulait dire, tu m'as protégé. Heureusement que Dieu ne tient pas compte de ces choses-là. Quelquefois, si nous ne prenons pas le temps d'articuler ce que nous voulons dire à Dieu, nous disons des choses. C'est pour ça que Jésus, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est pas la longueur de la prière qui est en cause. On peut avoir une prière très longue. Mais c'est ce qu'on dit. Et Jésus dit finalement, est-ce qu'à la fin d'une prière, est-ce que tu sais exactement ce que tu as dit à Dieu quand tu as fini de prier? Parce que si tu ne sais pas ce que tu as dit à Dieu quand tu as fini de prier, franchement, ça cause quand même un problème. Tu viens de prier ton Père et à la fin, tu ne sais plus ce que tu as dit. Imagine-toi, tu es devant quelqu'un, tu parles à la personne et qu'au bout du bout, la personne ne sache même pas à la fin ce que tu voulais lui dire. C'est déroutant quand même. Mais nous, on dit de toute façon, Dieu va se débrouiller avec mon balbutiement parce qu'il sait tout. Donc, Jésus ne remet pas en cause la prière publique. Il ne remet pas en cause le fait qu'on puisse prier avec élégance, avec autant de paroles. Non. Il dit, quand on le fait, soyons conséquents. Il s'agit d'une relation d'intimité avec Dieu. Non seulement avec Dieu, mais avec le peuple de Dieu. La prière était aussi là pour édifier l'église de Dieu. Ma prière est là pour édifier mon frère. Quand il entend ma prière, dans la louange que je fais à Dieu, dans les remerciements que je fais à Dieu pour ce qu'il m'a fait, ça m'encourage. Et que quelquefois, parce que peut-être je n'ai pas l'opportunité de témoigner publiquement devant tous, mais quand je prie, c'est un témoignage que je rends à Dieu. Mon frère, peut-être qu'il est dans la même situation. Ah, il a fait ça avec ma soeur. Donc il peut le faire aussi avec moi. Et ça l'édifie. Et ça le fortifie. Dieu a pris les prières de David comme parole de Dieu et nous avons dans les psaumes. Les psaumes, pour quelques-uns, c'est des prières de David. Mais c'est une parole que Dieu a mis son onction dessus et c'est devenu une parole de Dieu pour nous. Quand je dis l'Éternel est mon berger, mais c'est David dans sa relation avec Dieu, dans son intimité, dans ce qu'il a vécu avec Dieu, il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais lisez le psaume 23 avant de lire le psaume. Non? C'est quel psaume que je viens de citer? Soyez vigilants, même avec les prédicateurs aussi. Parfois, ils mélangent les références. Soyons des chrétiens de Béré. L'apôtre Paul dit, quand tu lui prêchais à Béré, quand les chrétiens de Béré rentraient chez eux, ils vérifiaient. Si ce que l'apôtre Paul a dit, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. C'est important. Parce que nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Et nous sommes l'église de Dieu ensemble. Le psaume 23 vient après le psaume 22. Et avant le psaume 24. Que quelqu'un retrouve le psaume 22. Quelqu'un a trouvé? Si la personne trouve, elle peut nous lire les débuts du psaume 22. Merci, Josiane. Voilà comment le psaume 22 commence. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 23. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Soit il y a quelque chose qui ne va pas, soit il y a quelque chose qui s'est écoulé entre le psaume 22 au moment où il écrit et quand il revient, il écrit le psaume 23. Parce que le psaume 22, c'est une complainte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah ben, si l'Éternel est ton berger, comment il peut t'abandonner? Sauf que le psaume 23, il vient après le psaume 22. Donc le psalmiste avait l'expérience. Dans ce désert, dans cette épreuve qu'il traversait, il a fait l'expérience du secours de l'Éternel. Et il peut dire, l'Éternel est mon berger. Les prières doivent être authentiques, vraies, dans ce que nous disons, pas juste des formules. Pas juste des formules. C'est ce que Jésus essaie de dire ici à ses disciples. Priez de façon conséquente, comme lui-même il nous l'a laissé. Et il va donner par la suite ce modèle de prière qui finalement dans certains contextes est devenu une formule de prière. Le Notre Père n'est pas une formule de prière. Le Notre Père est un modèle de prière. Que Dieu nous aide. Par contre, plus tard, plus loin, dans le chapitre 7, Jésus va revenir sur la prière. Il va revenir sur la prière. Au verset 7 à 8 du chapitre 7, il va dire, « Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche tout et qui frappe, on ouvrira. Donc Jésus, en train de dire, la prière est importante. La façon de prier est importante. La motivation dans la prière est importante. Peu importe finalement l'endroit où tu pries. Tu peux prier comme tu veux, où tu veux, à l'endroit où tu es. Mais c'est ton Dieu que tu pries d'abord. C'est ton Seigneur que tu pries d'abord. C'est à lui que tu parles d'abord, avant de parler à ceux qui sont autour de toi. Et que la prière, parfois, c'est aussi dans la continuité, dans la persévérance. Parce que les versets que nous avons lus, il y a un effort qui est dedans. Demander, n'est-ce pas? Chercher, frapper. Donc il y a un effort dans la prière. La prière, c'est un effort. Celui, le chrétien qui ne sait pas que prier, ça demande un effort, il ne va pas avoir une vie de prière conséquente. Celui qui croit que prier, c'est naturel, il se trompe. Prier de façon conséquente, profonde avec Dieu, ce n'est pas naturel. On s'éduque à la prière. On se discipline à la prière. On s'engage dans la prière. Parfois, il y a des sujets qui demandent qu'on s'y engage avec une telle force que finalement, on est appelé aussi à jeûner. D'où le thème qui vient après. Toujours dans le chapitre 6, après le verset 15, on touche au verset 16. Et dans le verset 16, il touche le thème du jeûne. N'est-ce pas? Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. À chaque fois, il aime le mot hypocrite. Hein? Dans la pensée juive, l'hypocrite, c'est un acteur de cinéma. C'est le même thème qu'a donné acteur. Hein? Un acteur, les acteurs, ils sont formidables, n'est-ce pas? Le même qui est un chef bandit dans un film, dans l'autre film, c'est un héros. Et parfois, les personnes qui ne sont pas... Mais c'est pas le même qui était le chef bandit là-bas. Ah, c'est pas le même film déjà. Donc voilà. Donc c'est des gens qui prennent des rôles et savent tellement les faire que parfois on les identifie même à leur rôle. Il y avait une série dans laquelle un personnage était tellement méchant que dans son quartier là où il vivait, à chaque fois qu'il rencontrait des jeunes gens, les gens disaient c'est le méchant là qui va là. Mais c'était dans le film. Dans la vraie vie, il n'est pas si méchant que ça. Mais ce rôle-là, c'était une série qui avait tellement duré que finalement les gens l'identifier à son rôle de méchant. Ça lui a collé à la peau. Et l'hypocrite, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'est pas. Et Jésus dit, dans la société juive, quand vous jeûnez pour être vu des autres. Il dit, c'est les pharisiens. Donc, il y avait une secte qu'on appelle les pharisiens. Et c'était les pharisiens les plus stricts. Ils jeûnaient deux fois par semaine. Et quand ils jeûnaient, ils voulaient que tout le monde voie qu'ils sont jeunes. Donc, leur attitude, leur vestimentaire, le truc. Parce que c'était un signe de spiritualité. Voilà. Nous sommes les plus spirituels d'entre vous. On jeûne deux fois par jour et vous le voyez. Là, on est en jeûne. Jésus dit, le chrétien, quand il est en jeûne, ça doit être comme tous les jours. Il doit être comme tous les jours. Parce que l'objectif, ce n'est pas de montrer aux gens qu'on jeûne. Si l'objectif, c'est ça, ça sert à quoi de jeûner? Parce que le jeûne, on s'humilie devant Dieu pour apporter une situation d'intercession. On dit, Seigneur, s'il te plaît. Ou on prend du temps avec Dieu. On se prive d'aliments pour prendre du temps avec Dieu. Pour passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est ça le vrai jeûne. Ou quand il y a une situation particulière, l'Église dit, on va jeûner, on va supplier l'Éternel. Parce que le texte dit quoi? Demander, chercher, frapper. Que quelquefois, l'Église est invitée à jeûner, à crier à Dieu. Donc il dit, quand vous jeûnez, faites en sorte que les regards ne soient pas tournés vers vous. Qu'on ne dise pas, mais qu'est-ce que tu as? Ah, je jeûne aujourd'hui. Ah, c'est bien. Que ce soit bien ou pas, qu'on le dise ou pas, ça n'a pas trop d'intérêt parce que tu fais quelque chose avec ton Dieu. Et l'Église fait ça avec Dieu. Et puis ensuite, il parle de la richesse. Les versets qui suivent. Jésus attire l'attention de ses disciples, n'est-ce pas? Dans les versets qui suivent. Il dit quoi à partir du verset 19? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un verset qui me marque. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien tes ténèbres sont profondes. Combien tes ténèbres sont profondes. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman en même temps. Je ne reviens pas dessus parce que ça a été un peu le thème de la prédication sur les inquiétudes, hein, l'excès d'inquiétude. Mais en résumé, Jésus veut dire que nous avons besoin des richesses de la terre. C'est pas de ça qu'il est question. On a besoin de ces choses, bien sûr. Sinon, nous ne serions pas là, frères et sœurs. Nous n'aurions pas les voitures que nous avons. Nous n'aurions pas les appartements que nous n'aurions même pas les prêts immobiliers pour nous acheter des maisons. Ça servirait à quoi? Il semble que ma grand-mère a fait ça, qui était protestante, et mon grand-père lui en voulait beaucoup parce qu'elle a dit, ça sert à rien d'aller au champ. Jésus revient bientôt. Et mon grand-père n'était pas converti. Il dit, mais en temps, c'est moi qui m'occupe du café et c'est de là qu'on tire l'argent pour prendre soin de la maison. Ton Jésus, c'est pas lui qui donne les sous tous les matins. Globalement, il n'avait pas tort, mais profondément, il avait tort parce que sa santé venait de Dieu. La force qu'il avait venait de Dieu, mais il était inconverti. Ma grand-mère avait tort dans la façon de penser que Jésus revient bientôt, elle ne va plus au champ. Ça n'avait rien à voir. Et Jésus dit ça, et l'apôtre Paul dit ça aux Thessaloniciens. Car dans l'église des Thessaloniques, il y a certains qui disaient, Christ revient bientôt. À quoi sert de se fatiguer à travailler? Et pourtant, ils allaient manger chez les autres frères qui travaillaient. Et l'apôtre Paul dit que s'ils viennent chez vous là, chassez-les, qu'ils aillent travailler. Et les réformateurs, je ne sais plus si c'est Jean Calvin ou Luther dit, le Seigneur revient bientôt, mais en attendant, je planterai des arbres. Comme pour dire, le Seigneur va bénir, c'est vrai. Mais je continue de prendre soin de la création qu'il m'a donnée. Je continue de prendre soin des enfants qu'il m'a donnés. Je continue de travailler pour prendre soin de ma famille. Et si je peux acquérir une situation sociale plus élevée pour avoir un revenu conséquent, je le ferai. Avec certainement l'attention à ce que justement le fait que j'amasse les richesses ne soit pas un piège pour moi. Parce que Jésus dit, faites attention. Quand on amasse des richesses sans faire attention, cet amas de richesses commence à devenir une domination sur nous. Ça nous domine. C'est pour ça qu'il dit attention. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur, c'est dans l'amas de richesses et de biens que tu as accumulé, si c'est ça ton trésor, bah ton cœur sera là. Mais si c'était qu'un outil, si c'était que quelque chose dont on a besoin pour vivre, mais que ton cœur est dans le Seigneur, alors ta richesse ne sera pas un piège pour toi. Ce qui intéresse Jésus, c'est la fidélité. Gardez votre fidélité à Dieu, quel que soit votre statut social. Quel que soit votre statut social. Veillez à ça avec une entière vigilance. Veillez à cela avec une entière vigilance. Donc ce n'est pas un refus ou un commandement à ne pas devenir riche. Non, c'est une invitation à bien faire attention avec les richesses. Amen. Donc voilà quelques aspects de ce que nous avons déjà vu la semaine dernière, les semaines qui ont précédé. Je voudrais terminer par le chapitre 7, verset 1 à 6. Il me semble que c'est important aussi. Il dit, ne vous posez pas en juge afin de ne pas être jugé. Car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous vous serez servi qu'on se servira de la même mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil? Tu ne la remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère? Attends, jette la paille de ton œil. Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti. Ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est une sagesse de vie que Jésus donne là. Mais au-delà d'une sagesse de vie, c'est une profonde leçon spirituelle et humaine. Jésus invite le disciple avant de critiquer à s'auto-critiquer. Les jugements de valeur, ils ne sont pas interdits puisque Jésus dit c'est à vous de juger, même vous allez juger. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire non, on ne doit plus rien dire à personne. Non, ce n'est pas ça qu'il s'agit. Jésus dit simplement, si on est des adultes, avant de dire quelque chose à un autre adulte, prends le temps de voir si toi, sur ce problème-là, si tu l'as réglé toi. Si tu ne l'as pas réglé, ça va te donner l'humilité qu'il faut pour parler à ton frère. Parce que tu vas t'identifier à lui. Tu pourras lui parler, mais c'est avec humilité. Parce que tu es dans le même combat que lui. Et ton frère pourra te comprendre parce que vous êtes dans le même combat. Mais si tu l'as réglé aussi, c'est avec une certaine force que tu vas lui parler. Parce que tu vas lui montrer que c'est possible de s'en sortir. Parce que toi, Dieu t'a aidé à t'en sortir. Et que le Dieu dont tu parles, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour moi, il pourra le faire aussi pour toi. C'est là l'intérêt de l'autocritique. C'est de voir où j'en suis pour que quand je veux parler avec mon frère, je sache comment me situer. Pour ne pas être un donneur de leçons dans le vide. Pour ne pas être ceux qui critiquent pour critiquer. Jésus nous connaissait. Il sait que quand on est en communauté, peu importe le type de communauté, les regards croisés peuvent toujours intervenir. Parfois, c'est avec des bonnes intentions. D'autres fois, on ne sait pas si l'intention est bonne ou pas. Et Jésus nous donne la recette. Il dit, oui, peut-être qu'il y a une paille dans l'œil de ton frère. Donc, c'est vrai qu'il a quelque chose. Mais toi, il y a une poutre. Je ne sais pas si vous voyez l'image. La paille, c'est un petit brin comme ça. La poutre, c'est comme la colonne de briques qui est là. Donc, c'est un gros machin. Et dis, toi, dans ton œil, c'est visible. Tout le monde voit ce qui est dans ton œil. Ce qui est dans l'œil de ton frère, il faut s'approcher pour voir. Mais toi, tu as été capable de voir pour lui. Et ce qui est dans... Tu n'as pas réglé ton problème. Il dit, règle ton problème. Ou essaie de le régler. Et en ce moment, tu seras fort pour aider ton frère à aller plus loin. Pour aider ta soeur à aller plus loin. Je crois qu'il y a une profonde leçon spirituelle de sagesse humaine. Et ça doit tous nous inviter à l'humilité. À l'humilité. Et cette humilité nous conduit à la foi en Jésus-Christ. Crois, c'est connaître Jésus. Croire, c'est connaître Jésus. Jésus veut se faire connaître. Il se fait connaître à nous, n'est-ce pas? Les premiers disciples ont d'abord rencontré Jésus en passant du temps avec lui. Ensuite, ils ont accompagné Jésus en étant avec lui. Ils ont fait plus ample connaissance avec Jésus. Et Jésus leur a fait voir des choses. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Là, on a cité un certain nombre de choses qui font partie de la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est une relation avec Jésus. Continue de connaître ton Seigneur. Il t'a rencontré. Il veut être ton compagnon. Il veut marcher avec toi. Il veut vivre avec toi. Il veut être avec toi dans les petits comme dans les grandes choses. Dans les simples comme dans les complexes. Il veut être tes jeunes, peu importe. Jésus, tu l'as vu ce matin, on l'a dit. Marc chapitre 10, il a dit, même laissez venir à moi les petits enfants. L'âge n'est pas important. Dieu veut être en communion avec tous ceux qui ont une conscience et qui peuvent réfléchir et qui savent discerner le bien et le mal. Croire, c'est placer sa confiance en Jésus. Lui faire confiance. Je te fais confiance. Ce que tu dis dans la parole de Dieu est vrai. J'ai mis en cache. Quelquefois, je ne sais pas trop comment ça va me conduire, comment ça va tourner. Mais comme tu l'as dit dans ta parole, je te suis. Jésus a vu Matthieu le publicain, il dit, lève-toi et suis-moi. Matthieu n'a pas dit où on va. C'était une question légitime quand même. J'ai un travail, tu me vois un matin, tu me dis, suis-moi. J'ai une famille. Matthieu aurait pu dire, mais franchement, tu es gentil, mais où on va? Mais il savait qui était Jésus. Et il a suivi. Il savait qui était Jésus. C'est faire confiance. C'est suivre Jésus. C'est dépendre de lui. Croire, c'est recevoir Jésus et se donner à lui totalement, n'est-ce pas? Croire, c'est obéir à Jésus et lui être fidèle. Bartimée, cet aveugle de Jéricho, Marc chapitre 10 toujours, on dit, la foule passait, il a entendu que c'est Jésus qui passait, il était aveugle dans son coin. Fils de David! Les gens disent, écoute, t'as l'habitude de faire ces choses-là, aujourd'hui c'est pas le moment, Bartimée. Tu te calmes un peu et tu laisses les gens faire leurs affaires. Fils de David! Il a insisté. Et Jésus, finalement, est venu vers Bartimée. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Bartimée? Seigneur, que je retrouve la vue. Il connaissait, sa prière était claire. Il savait ce qu'il allait demander à Jésus si Jésus s'arrêtait. Il n'a pas tergiversé, lui a demandé. Et le texte dit que Jésus lui a dit, à l'instant même. À l'instant même. Bartimée a recouvré la vue. Cher frère, peut-être que tu es dans une situation qui perturbe. Peut-être que tu es dans une situation qui perturbe. Bartimée, le texte nous dit qu'il est né aveugle. Depuis le temps que Bartimée est aveugle. Il aurait pu dire, de toutes les façons, je suis déjà peut-être vers la fin, voir, ça ne sert plus à rien. Donne-moi des richesses. Jésus était capable aussi de lui donner des richesses. Mais il savait que sa vue était importante pour sa vie et que les richesses, on les perd, mais la vue, c'est quelque chose quand même. Parfois, quand nous demandons des choses à Dieu, essayons d'être sages. Ciblons ce qui est l'objectif dans le moment où nous le demandons, dans la situation qu'elle est à notre. Amen. Il a confessé sa misère, Bartimée. Il a reconnu qui était Jésus. Il a obéi à l'ordre que Jésus lui a donné. Il est venu sans hésiter. Il a imploré la grâce du Seigneur. Il a demandé son aide. Il a reçu la guérison. Parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. La guérison dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de nous. Mais demander la guérison, ça dépend de nous. J'ai le droit de demander. C'est Dieu qui va me répondre. Personne n'a le droit de me dire, oh, arrête de demander la guérison. Je demande, tu es Dieu? Non, tu n'es pas Dieu. Laisse Dieu me répondre. Mais dans mon attente, je dois être équilibré. Parce que c'est lui qui va me répondre. Donc je ne peux pas préjuger de la réponse de Dieu. Si je dis, il va me répondre en me guérissant, là il n'est plus Dieu pour moi. Parce que je veux le manipuler. Comment je connais sa réponse s'il est Dieu? On a dit à David, où est ton Dieu? Il dit, mon Dieu est au ciel, il fait ce qui lui plaît. Mon Dieu est au ciel, il fait ce qui lui plaît. Parce qu'il est Dieu. Et que parfois, nous manipulons Dieu de façon inconsciente. On a préjugé déjà de sa réponse. Mais non. Mais demander avec insistance, c'est mon droit. Jeûner et prier, c'est mon droit. Je termine. Quand David a eu cette aventure que Dieu ne voulait pas Bathsheba, et qu'il y a eu une grossesse. La Bible dit que David a voulu que cet enfant reste vivant. Mais Dieu avait déjà dit, David, cet enfant, c'est un enfant. Quand il va naître, ça va être compliqué. Je ne le garderai pas. David a jeûné pour que cet enfant malade reste vivant. Dieu avait déjà dit non. Mais il a eu quand même son droit de demander de jeûner. Le lendemain, quand le Seigneur a rappelé l'enfant, la Bible dit, quand ses serviteurs l'ont vu, c'était comme si c'était quelqu'un qui venait pas te gêner, quoi. C'était un autre monsieur. Ils ont dit, mais on comprend pas. Hier, tu étais dans le jeûne. Il dit, mais que voulez-vous que je fasse? J'ai demandé, Dieu a dit non. Je passe à autre chose. Ben, il avait raison. Il dit, je passe à autre chose. Dieu a dit non. Dans notre marche avec Dieu, apprenons à entendre les réponses de Dieu. Apprenons à discerner les réponses de Dieu. Prions. Te bénissons, notre Dieu. Merci parce que tu nous appelles à la foi. Tu nous appelles à te donner nos cœurs, à te laisser cheminer avec nous. Tu veux marcher avec nous. Tu aimes marcher avec nous. Donne-nous de le comprendre jour après jour, année après année. Et de te laisser nous diriger. Car c'est notre bonheur que d'être dirigé par toi. Là, je prie pour des situations compliquées, extrêmes, que tu connais dans notre assemblée, pour certaines de nos familles, pour certaines de nos sœurs, pour certains de nos frères. Seigneur, comme Bartimée, nous invitons, fils de David, Jésus, Sauveur et Seigneur, fils de Dieu, viens, aie pitié de ces situations, notre Dieu. Aie pitié de ces situations et étends ta bonne main. Apporte la solution, notre Dieu. Nous voulons être une église qui prie avec conviction, mais bien sûr qui te laisse répondre selon ce que toi, tu veux. Ces autres interlocuteurs ont dit, si tu veux, Seigneur, tu peux, selon ta volonté. Mais entends nos cris pour les situations que tu connais et que nous connaissons et que nous te portons, même pour celles que nous ne connaissons pas. Te bénissons, notre Dieu. Donne-nous d'être trouvés fidèles, de marcher vers la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait.